Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission pour le mois de mars, émission consacrée, comme vous le savez, au cinéma, aux séries et aux documentaires. Alors en l'occurrence, un film et des séries, voilà, dont un flop, voilà, aussi quand même, on va pouvoir le dire, et une qui est en cours, franchement, c'est du bon. C'est du bon, ça part très très bien, c'est du bon, voilà, donc on va en parler. On va faire une petite pause musicale tout de suite. J'espère que votre mois de mars a été bon, voilà, hein, on a eu des petites températures assez sympas avant de se reprendre un coup de massue derrière, super. Voilà. Oh bah écoutez, c'est le mois des fous, hein. Voilà, donc c'est les giboulées de mars, après avril, ne te découvre pas d'un fil, hein. Voilà, donc il nous faut encore un mois, hein, pour être sûr de pouvoir bien sortir les bancs, les barbecues, les transats et les parasols et les t-shirts. Alors, bah là oui, on n'en est pas aux t-shirts, hein, on en est encore aux gros pulls, voire à l'écharpe et au bonnet. Alors, on fait ce qu'on peut. Hein. Écoutez, on va écouter Maurice Chevalier avec Dans la vie, il faut pas s'en faire. Et après, on parle du film. Ce pourrait être la devise du garçon en question, même si lui, il s'en fait beaucoup quand même. Ah bah si, quand même. Mais bon, écoutez, on lui fera écouter. Alors, ça aurait été trop simple de passer la chanson éponyme. Alors, même pas, elle n'est pas éponyme. C'est vraiment emblématique. C'est ce que je cherchais comme mot. C'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas le même nom. Emblématique de la série dont a été tiré le film. Enfin, en tous les cas, dont le film clôt la série complète. Non, ça n'aura plus certes. Oui, il y en a certains qui ont compris. Oh, bah, vu la débile, tu m'étonnes. Maurice Chevalier dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Bah, Lisa s'en fait pas du tout, là. Visiblement, elle en frime. Ah, freestyle, c'est fait. Ah, bah, elle est en roue libre. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut.
En sortant du
train,
je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante. Un autre que moi se serait dit, pour même faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir d'enquêter, je me suis tué à répéter, dans la vie faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas, ces petites misères seront passagères, ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère, un perdu tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris, mais mon notaire m'annonce de faire plein d'attention. Je vous colle un conseil judiciaire, et 25 louis par mois de pension. Et comme je ne connais plus personne dont vous puissiez être héritier, pour travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Tu dis comment ? Vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier ? Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère, un perdu tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas.
Dans la vie, faut pas s'en faire.
Dans la vie, faut pas s'en faire.
Toi, tu t'en fais pas.
Non, je ne m'en fais pas.
Toutes ces petites misères
seront passagères.
Tout ça s'arrangera.
Tout ça s'arrangera.
Tu n'as pas un caractère.
Je n'ai pas un caractère.
Un perdu tracas.
Un perdu tracas.
Croyez-moi sur terre.
Jamais sans faire, ouais, je n'en fais pas. Non, je n'en fais pas. Je n'ai pas un caractère, ça me perd du tracas. Croyez-moi sur terre, pour jamais sans faire, moi je n'en fais pas.
Alors, hors antenne, Lolita m'a dit, ouais, enfin, toi, c'est un peu ça, quand même. Super. Voilà. Si, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Enfin, si, on s'en fait tous, mais bon, voilà. Alors, on va parler du premier film, et film qui est apparu récemment sur la plateforme Netflix. Ah oui, je sais, vous avez compris de quoi on va parler. On va parler de Peaky Blinders. L'Immortel, qui est sous-titré L'Immortel pour le film. Alors, je ne vous le cache pas, et je pense que depuis des années que vous m'écoutez, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est quand même une des plus grandes séries qui a été produite par la télévision, enfin les plateformes en l'occurrence pour Netflix. Donc, est-ce qu'on est obligé de résumer ? Non, on ne résume pas. Mais enfin, on imagine qu'on va vous résumer ça. Début du 19e siècle, à Birmingham, en Angleterre, vous avez des, une famille de... En fait, c'est des gypsies, hein, qui... Enfin, en tous les cas, ils sont mixés, mélangés, et ils vont prendre la tête, en fait, de la mafia locale, etc. C'est un gang qui a existé, en plus. Hein, alors, pas les Shelby en tant que tel dans la série, mais il y a une bande qui a existé comme ça, qui portait des casquettes pour planquer des lames de rasoir dans leur casquette, hein, dans le rebord dur de la casquette. Donc voilà, c'est des gens qui ont existé. Et donc ils ont créé cette série qui... Et il faut bien l'avouer, une des meilleures séries vraiment qui a été faite, avec l'emblématique Tommy Shelby, porté à l'écran par le divin, beau, magnifique, talentueux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, irlandais, bah si, ça compte beaucoup pour Lisa, ça, Cillian Murphy, qui entre-temps a gagné un Oscar pour Oppenheimer, mais qui est, comme dirait le lutin dans mon oreille actuellement, ça fait 25 ans que tu nous gonfles avec lui. Super. Ah bah écoute, oui, j'ai du talent pour reconnaître les jolis garçons et talentueux en plus. Alors, ce film-là vraiment vient clore l'ensemble de la série. Voilà. Il avait été évoqué que peut-être ils allaient faire une autre saison, une dernière saison, mais au final ils ont préféré s'en tenir là, mais ils ont fait un film. Le film s'appelle L'Immortel. Alors nous, on reprend l'histoire, on est en 1940, en exactement novembre 40, en fait Tommy Shelby a décroché des affaires depuis visiblement quelques années. Il est dans sa ruine, hein, oui, si, sa maison qu'il a fait sauter à un moment donné, mais il en restait des petits morceaux, mais bon, il vit là, seul, avec juste, un pote et un garde qui fait garde-chasse, slash majordome, slash gardien du phare. Il est avec ses démons, il essaye d'écrire ses mémoires, mais en fait, il vit avec ses morts. Voilà, il passe sa vie entre le cimetière et une maison assez crépusculaire, faut le dire. On voit bien qu'il n'est pas très équilibré, le gars. Et donc, voilà, ça pose le tableau. Il s'est retiré des affaires, il n'a plus rien à faire. Lui, il est fini. C'est plus ça. Et nous, on assiste d'abord, premièrement, au fait que, comme vous le savez, en 40, l'Angleterre était sous le Blitz. Donc, la Luftwaffe a envoyé des tonnes de bombes sur l'Angleterre. Pas seulement que sur Londres, hein, sur d'autres villes, et notamment, et c'est un fait historique, il y a des bombes qui sont tombées donc ce novembre 1940 à Birmingham, notamment sur une usine où il y avait des ouvrières qui travaillaient, qui n'ont pas voulu, pour l'effort de guerre, aller vite aux abris, et qui sont mortes sur le coup lors de ce bombardement qui a visé cette usine. Nous, on assiste à ça, en fait, en gros, au départ du film, et on comprend assez rapidement que les Peaky Blinders sont toujours là, mais ils ont été repris par le fils de Tommy Shelby, fils qu'il a reconnu, mais qui n'a jamais élevé, qui est issu, lui aussi, de la communauté, alors là, pour le coup, complètement gitane, puisque sa mère l'était aussi, donc il est potentiellement le roi des Roms pour ce point-là, puisque son père étant lui considéré comme tel, mais bon, c'est un garçon qui a été élevé un peu n'importe comment, oui, quand même il est bien barré, lui, et enfin on va dire comme un peu beaucoup de sa famille. Et la seule personne qui lui tient tête, c'est sa tante Ada, donc la sœur et la seule de la fratrie Shelby qui reste avec Tommy. Et donc nous, on va assister à ça, à ce fait que il va falloir que Tommy Shelby ressorte de sa propriété pour aller, alors, sauver son fils, en tous les cas, rétablir les choses. En mode, t'es bien mignon, mais c'est quand même moi le patron. Sachant qu'en plus, son fils s'acoquine avec des néo-nazis anglais qui existaient. Hein, il y avait un parti fasciste qui était clairement pour Adolf Hitler. Et qu'il fait contrebande de billets de banque qui pourraient anéantir l'économie britannique. Alors, inutile de vous dire que ça plaît pas du tout à Papounet, hein. On le comprend, vu qu'il a travaillé quand même pour notamment Churchill dans un moment de la série. Alors, c'est un film, on peut pas raconter ce qui se passe, évidemment, c'est bien le but, mais c'est fait vraiment, alors contrairement à beaucoup de films, et on en a vu certains qui étaient là pour arrêter une série, et on en connaît qui n'ont pas été très très bons. Alors moi qui suis une grande fan d'X-Files, on peut pas dire que les films qui ont suivi la série X-Files étaient vraiment très très bons. Ils étaient faits pour les fans, point à la ligne, mais même en étant faits pour les fans, ils n'étaient pas forcément bons. Il y en a eu d'autres derrière, Le Lutin est grand fan de Downton Abbey, oui, les rôles sont inversés chez nous, hein. Et il n'a pas du tout aimé le grand final. Voilà, par exemple, il m'a dit « Ah, ben, ça ne servait à rien ce truc !» Si, à faire couiner dans les chaumières, mais c'est tout. Faut avouer que ce film-là, déjà premièrement, très bien réalisé, ça reprend tous les codes de la série. Il y a des personnages emblématiques, alors outre Cillian Murphy, mais il y a aussi le personnage Ada qui est là, et il y a certains seconds rôles qui étaient là depuis le début de la série et qui sont là pour appuyer, on va dire, le retour de Tommy Shelby à Birmingham. Alors, c'est crépusculaire, comme d'habitude, hein, ça envoie du bois, il y a des images bien acérées, bien gore des fois. Mais ne vous trompez pas, c'est pas le côté très baston ou très louvoyant de la série, très quelquefois malsain aussi. Alors il y a évidemment des musiques qui arrivent pile poil sur les bonnes scènes. Il y a ce fameux morceau de Nick Cave c'est The Right Red Hand qui a été refait par Nick Cave, réenregistré exactement pour saisir vraiment la scène qui est alors vraiment impressionnante, de où apparaît Tony Shelby sur quelque chose, et vous verrez si vous regardez le film. Donc il a réenregistré avec une version beaucoup plus lente, beaucoup plus poisseuse. Oui, poisseuse, voilà, c'est ça, poisseuse. Donc vraiment, c'est un très bon film qui finit la série vraiment très très bien pour une fois. Après, ce n'a pas le niveau de la série, mais on ne peut pas caser dans 1h45 pratiquement 10 épisodes de 45 ou 50 minutes. Enfin, je veux dire, c'est complètement utopique. Par contre, moi, j'ai retrouvé exactement ce que j'aimais dans Peaky Blinders. Voilà, la fin est époustouflante. Aussi émouvante qu'époustouflante. Voilà, il n'y a pas à tortiller, il y a pratiquement 3 minutes, enfin, ouais, presque 3 minutes, où vous avez les yeux sur l'écran alors que il se passe presque quasiment rien du tout. Voilà, et vous ne pouvez pas décrocher le regard. Donc, c'est vraiment la musique. Alors, j'étais très contente d'entendre Fontaine D.C. aussi, parce que je les aime beaucoup. Donc, franchement, c'est un très bon film, qui vraiment finit Peaky Blinders de très bonne façon. C'est pas le meilleur film du siècle, mais je vous dis, vraiment, tout repose sur Cillian Murphy, sur son personnage, sur ses attitudes, sur sa façon de faire, sur ses mots, sur ses silences. Enfin, ce type, en parlant de pas que de Cillian Murphy, du personnage de Tommy Shelby, est absolument envoûtant. Point à la ligne, vraiment. Donc, si vous avez aimé la série et si vous voulez y aller, vous pouvez aller voir Peaky Blinders, l'immortel. Moi, j'en ai parlé le lendemain avec des potes qui l'avaient vu, etc. Qui l'avaient vu, même eu la chance de l'avoir au ciné sur grand écran. puisqu'il y a certains privilégiés qui ont pu le faire, qui m'ont tous dit exactement la même chose que ce que je pensais. C'est-à-dire que voilà, c'est un très bon opus, ça finit ce qu'il fallait finir, ça ferme les portes où il fallait les fermer, même s'il y a quand même une petite porte ouverte, mais je pense qu'ils feront pas, ils iront pas s'engager dans cette porte-là. On a pris du plaisir avec les Shelby pendant des années. Bah, comme ça, on aura un film à se revoir. Et puis comme ça, admirer Cillian Murphy. Voilà, ça c'est fait. Oh bah écoute, les lutins n'aiment pas du tout quand je me pâme comme ça. Bon allez, petite pause musicale avec Gloria Estefan et Don't Wanna Lose You. Et on part sur une série, alors waouh. Ah non, waouh. Deuxième saison, mais waouh aussi. Sometimes it's hard. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am, and not who you want for me to be. I am only myself, myself. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu cette chanson. Enfin, je veux dire, je l'ai entendue pendant des années, hein, quand elle est sortie, mais tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réécoutée. Donc, Gloria Estefan dans Voilà le Zona. Franchement, bah ouais, elle est toujours aussi bien. Bon, bref. Oh là. Alors, on part sur la série Paradise, saison 2, donc c'est sur Disney+. Alors, c'est une série de science-fiction. On est dans un autre monde, mais dans quelques décennies. La saison 1, pour pas trop divulgâcher beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a une ville qui a été mise sous une montagne suite à une catastrophe qui s'est passée sur Terre, visiblement atomique, d'après ce qu'on sait, on comprend. Et on se retrouve avec des personnages, il y a un président des États-Unis qui d'ailleurs, dès le début, dès le premier épisode, est assassiné. Donc il y a une enquête, etc., qui mène à d'autres révélations. Bon, bref. Et donc on reprend sur la saison 2. Alors, si vous n'avez pas vu la saison 1, écoutez, bouchez-vous les oreilles. Alors, c'est pas bien pour le faire pour la radio. Alors, ne tournez pas le poste de la radio. Allez juste, je sais pas, moi, écoutez, je sais pas. Faites autre chose, hein, peut-être. Hein, j'en sais rien. Je vais essayer de pas trop vous dévoiler de choses. Alors, la saison 2 s'ouvre sur un épisode, mais qui est absolument bouleversant et qui ne reprend absolument aucun personnage de la première saison. Et alors là, vous vous dites, moi qui adorais la première saison, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, dès le premier épisode, vous êtes happé immédiatement. On met en scène une jeune femme qui s'appelle Annie, en fait, en vérité, une petite fille qui s'appelle une ado qui s'appelle Annie, qui vit une vie absolument normale, sauf qu'elle est une personne aidante, c'est-à-dire qu'elle est auprès de sa maman, qui est très malade, qui est une grande fan d'Elvis Presley, et Annie est en fait chargée par sa maman, notamment, outre des courses et de faire tout le reste, d'aller de temps en temps à Graceland faire une visite guidée et de lui raconter, et encore, et encore, et encore. Et bon, un jour, bah malheureusement, elle rentre et sa maman est morte. Voilà, parce que visiblement, elle était très très malade. Donc Annie se retrouve seule et il y a une ellipse qui nous la retrouve en troisième année de médecine qui à un moment donné, bon, il y a quelque chose qui lui arrive et elle ne peut plus continuer médecine pour une raison personnelle. L'image suivante la fait venir pleurer sur ses désillusions devant l'ouverture de la grille de Graceland. Et en fait, par un concours de circonstances, elle va se retrouver guide à Graceland. Et sachant qu'elle connaissait énormément de choses sur Presley, elle est un des guides les préférés. Et en fait, nous, on voit arriver cette gosse, cette jeune femme, qui est jouée magnifiquement par Shailene Woodley et qui est vraiment, elle est vraiment... En plus qu'elle est belle, cette fille, elle a beaucoup de talent. Elle a un truc, c'est même plus que du charisme, en fait. Avec le lutin, on en parlait, c'est même plus que ça. Elle a un truc qui fascine. Vous ne pouvez pas détourner les yeux de cette fille-là. Quand elle est à l'écran, c'est assez impressionnant. Et donc, on se rend compte, en fait, à un moment donné dans sa visite, qu'elle est en train de vivre la catastrophe que l'on connaît, qu'on a compris dans la saison 1, elle est en train de la vivre et de nous la montrer. Voilà. Et nous, on se retrouve avec les tenants et les aboutissants, et en fait, cette éruption volcanique qui a dévasté le monde entier, enfin, en tous les cas, qui a dévasté l'air et la planète et la vie, beaucoup de choses sur la planète, on se dit, ah ouais, mais putain, c'est ça. Et en fait, elle nous montre ce que nous, on a subodoré toute la première saison. Le truc... Alors, vous êtes autant bouleversé que surpris parce que vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, on va la voir pendant tout le premier épisode, cette Annie s'enfermer avec un autre membre du personnel de Graceland, qui est très blessé, qui va d'ailleurs finir par mourir, comme sa mère. Elle va se retrouver toute seule. Et donc, pendant des mois, et voire plusieurs années, elle va se retrouver seule dans cette propriété, à essayer de tenir comme elle peut, à utiliser ce qui peut être utilisé parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de choses qui puissent être produites, hein, parce qu'il y a un nuage qui couvre le ciel, donc il fait très froid, il n'y a plus rien, il n'y a pas de choses qui poussent, donc tout a été dévasté, donc elle essaye de faire pousser, elle arrive à trouver un truc, donc elle arrive à faire des petits plans, et de petits plans, elle en fait un deuxième, enfin, c'est vraiment la vie... revenir à la vie primaire et d'essayer d'en refaire une nouvelle, de redémarrer. Et un jour, il y a des hommes qui vont arriver, qui cherchent en fait à rejoindre le bunker. Au début, elle a un peu la trouille, et elle ne sait pas ce que c'est le bunker. Nous, on sait ce que c'est, puisqu'on a été dedans pendant toute la saison, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, cet épisode nous montre ce qui a été notre interrogation pendant toute la saison 1, et nous indique qu'il y a eu des gens qui ont survécu, contrairement à ce qu'on pensait, mais qui, eux, n'ont pas connaissance du bunker, ou très peu, par oui-dire, ont eu connaissance du bunker, et donc certains cherchent à rejoindre ce fameux bunker aller y rentrer, ou déloger, ou éventuellement faire autre chose. Et quand vous passez ce premier épisode, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Et en fait, c'est crescendo. Tous les épisodes, c'est crescendo. Le quatrième épisode est absolument à vous... Moi, ça m'a arraché le cœur. La performance de Shailene Woodley dans cet épisode-là, la force de son caractère, de son personnage est absolument magnifique. Moi, on était avec le lutin. Le lutin, alors moi, je ne pars pas déjà... je peux pleurer plus facilement pour un film ou une série. Je ne pars pas, par exemple, pour les livres, c'est rare, très rare. Et alors, quand c'est ça, c'est... Voilà. Contrairement... À moi, lui, il pleure pour les livres et il ne pleure pas devant les films et les séries. Ah bah, le lutin, il avait son Kleenex. Ah, il avait son petit mouchoir en papier. Ah, il a... Faut dire que, hein, il est rude cet épisode 4. Oh punaise, vous sortez de là. Et en fait, chaque épisode de la saison 2 va apporter une pierre à l'édifice de cette excellente série post-apo. Mais aussi de science-fiction, hein, parce qu'il y a quand même des choses, c'est pas... Voilà. Non, il n'y a pas d'aliens, mais bon, y a des technologies, on est bien d'accord. Tous les personnages sont bafouillés, c'est bien construit, il y a les ramifications qui sont bien écrites, c'est bien développé, il y a tout le temps de la tension, à l'intérieur comme à l'extérieur, et tout le temps, ils mêlent des flashbacks qui apportent, en fait, à chaque fois, plus d'émotion ou une révélation dans l'émotion. Cette série, elle est meilleure d'épisode en épisode. C'est pas compliqué à dire. La fin de la saison 2, évidemment, ouvre une saison 3. Moi, je peux plus que souhaiter que ça continue deux saisons de plus, tellement c'est bon à chaque fois. Et alors, cette fois-ci, il y a des podcasts. Il y a un podcast qui est tiré de chaque épisode, qui est animé par une des actrices de la série et qui est aussi la femme du personnage de Xavier, puisqu'on les retrouve, hein, tous ceux du bunker, évidemment, ils reviennent dès l'épisode 2, etc. Enfin, bref, il y a un mélange des deux univers, désormais, dessous et dessus. Alors, franchement, c'est très intéressant à écouter, sauf qu'elle est très exubérante, très volubile, très très enthousiaste, elle est même trop, alors vous me direz c'est à l'américaine, ah non, là c'est plus qu'à l'américaine, hein, carrément, elle est, quelquefois elle gâche un peu les échanges, parce que avec ce côté où elle surjoue la surprise de certaines révélations, alors qu'elle faisait partie des acteurs de la série, son mec et la tête de pont, voilà, elle gâche un peu quelquefois. Par contre, en tant qu'actrice, puisqu'elle fait partie de la série, elle est bien. Mais là, dans le podcast, elle est un peu trop enthousiaste et volubile quelquefois. Elle rigole trop fort. Donc, c'est dommage parce qu'il y a des moments, il y a des échanges où vous avez envie qu'elle creuse ce que l'acteur dit ou l'actrice dit parce qu'elle a préparé son rôle et qu'elle explique quelque chose. Et elle la coupe et elle se met à hurler « Ah, je vous aime, je vous aime !» Voilà, donc quelquefois c'est un peu gonflant, mais par contre si vous aimez la série, la deuxième saison, hein, n'y allez pas si vous n'avez pas vu la première, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses qui sont expliquées, ça va vous apporter au moins sur les méthodes de travail des acteurs et la façon dont ils ont préparé leur rôle et comment ils ont vécu leur rôle aussi, et certaines scènes, notamment Shailene Woodley explique la scène, l'épisode 1 et l'épisode 4, franchement c'est une performance, voilà. Donc ça s'appelle Paradise, saison 2, c'est sur Disney+, écoutez. N'hésitez pas, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, on fait une petite pause musicale avec le grand et regretté George Michael, avec Faith, et on va trouver une série sur Prime, même si cette plateforme ne me plaît pas, hein, elle n'est pas ergonomique, elle est vraiment pas bien foutue cette plateforme, mais la série est vraiment bonne. Michael George Michael, Faith. Non, c'est pas George Michael. Oui, oui, c'est George Michael. Je sais qui c'est, George Michael. Alors c'est très rigolo, parce que je lui disais hors antenne au lutin qu'on a choisi deux chansons de 1989. Je sais pas pourquoi, bon écoute, c'est le hasard, voilà. Alors on va parler après George Michael, de la série Young Sheldon, donc Sherlock, pardon, Young Sherlock, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Sheldon, non, c'est pas Big Bang Theory, c'est le Young Sherlock, donc qui est une adaptation de Sherlock Holmes, évidemment, plus jeune. C'est adapté complètement par et produit par Guy Ritchie. Oui, alors quand on vous dit ça, hein, on est d'accord sur la question. Alors là, on est Sherlock Holmes à 19 ans, il est vraiment sans expérience, il se retrouve en fait embarqué dans une espèce de mystère sur un meurtre qui est survenu dans l'université d'Oxford, et il plonge dans sa première affaire avec un pote, un camarade de classe qui s'appelle James Moriarty, mais pour l'instant ils sont potes, copains comme cochons. Alors c'est adapté d'une série littéraire de Andy Lane qui revenait sur les jeunes années de Sherlock Holmes. Alors une fois qu'on a dit que la meilleure série télé sur Sherlock Holmes, celle avec Benedict Cumberbatch, on est d'accord, on a tout dit, hein. Oui, oh bah, s'il y a une série à voir sur Sherlock Holmes, c'est celle-là. Alors, le souci, c'est que moi, j'aime Guy Ritchie, même dans ses navets, et il faut quand même dire que le roi Arthur était quand même pas très, 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 très bon, sauf Jude Law, mais enfin, même Luzo n'était pas génial là-dedans, mais bon, c'est Jude Law, hein, donc on lui pardonne, ça compense tout le temps. Mais moi, j'aime bien Guy Ritchie, voilà. Et là, il reprend sa sauce habituelle, la sauce qui fait son succès généralement, que ça soit dans Mobland, que ça soit... dans l'excellent The Gentleman dont on attend la saison 2 sur Netflix comme le Messi. Vraiment, c'est sa sauce. C'est-à-dire, sa réalisation, elle est vive, ça pète, ça boum, ça virevolte, ça met de la musique moderne dans des intros, dans des scènes, à vous arracher les tympans. Voilà. Et c'est la méthode Guy Ritchie. Alors, il en réalise quelques-uns d'épisodes. Mais je dois avouer que comme c'est une série sur Sherlock Holmes, et moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein, puisque j'avais lu les livres de... Voilà, vrai, les livres, pas la série littéraire. D'ailleurs, la série littéraire sur le jeune Sherlock, je ne l'ai pas vue. Mais moi, j'ai lu, oui, évidemment. Ça débute assez bien. Et en fait, dès le générique, ben, moi, je me suis dit, ah ben, je reste là. Alors, moi, j'ai fait rire tout le monde. J'ai dit, ah ben non, moi, une série qui a un générique où c'est une de mes chansons préférées qui sert de générique, eh ben, comment résister? Et la chanson... En l'autant. Alors, je voulais vous la mettre, mais je me suis dit, oh, ça va faire un peu trop. Oh, bah si, quand même. C'est Days Are Forgotten de Kasabian. Voilà. Et alors, quand une série commence par Kasabian, et notamment, surtout Days Are Forgotten, chantée par Tom Meighan, qui depuis a quitté le groupe, du coup, moi, Kasabian, sans Tom Meighan, ça ne m'intéresse pas, ah ben, je suis très, très contente. Voilà. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire. Dans cette série, le truc, c'est que de voir ce jeune homme qui déduit, qui est à la limite du trauma à chaque fois, avec son futur meilleur ennemi à ses côtés, hein, parce que Moriarty est là. Alors, il est très bien interprété, à mon humble avis, par un acteur qui arrive à être à la fois sympathique, aimable, mais qui a ce regard tout le temps, assez régulièrement, ambigu et très menaçant. Son regard contraste avec son attitude, ce qui est assez bien foutu quand même. Voilà, alors on explique les failles de la famille de Holmes, évidemment, il a à ses côtés son frère Mycroft. Alors moi, personnellement, c'est mon personnage préféré. Alors en plus, il est joué par Mike Irons. Alors allez-y, vas-y. Moi, j'étais en mode PLS, fan groupie absolue. Ah non, mais je vous le dis... Donc j'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. Alors le lutin n'a pas vu, il n'a pas voulu le voir, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors quelquefois c'est un peu trop, c'est du gritchy, hein, voilà. Donc quelquefois c'est un peu trop, il y a 2-3 moments où franchement j'ai levé les yeux au ciel en me disant oh non mais déconne. Oh bah quand même, qu'est-ce que c'est ? Voilà, mais j'ai passé un très bon moment, parce que c'est vif, parce que les acteurs semblent s'amuser énormément, parce que la musique est moderne, il y a des arrêts sur l'image, il y a des bastions, il y a des explosions, il y a des décors délirants. Alors moi, l'introduction de Paris Cartoon, là, ça m'a fait mourir de rire. Je sais que ça a irrité pas mal de fans, paraît-il, mais moi, j'ai trouvé ça assez intéressant à voir. Constantinople, pareil, etc. Mais c'est enlevé. Ça fait passer un bon moment, ça fait ping-pong-poum. Écoutez, c'est du Gritchy, moi j'ai aimé. Voilà. En plus, je trouve l'acteur qui joue Sherlock Holmes jeune assez exceptionnel. D'ailleurs, c'est le... Alors, il y a Joseph Fiennes, le frère de Ralph, qui joue le père de la famille Holmes. Et c'est son neveu, si j'ai bien compris. Donc, c'est le fils de la sœur ou le frère de Ralph et Joseph Fiennes. Voilà. Je ne suis pas allée chercher plus, mais il a une belle bouille. Il est joli comme tout. Et il a le côté un peu tombé du nid, des fois, de Sherlock Holmes. Un peu rentré à l'intérieur de sa tête. Et donc, effectivement, ça explique... Je pense que la série littéraire expliquait beaucoup ce qu'était Sherlock avant de devenir Sherlock Holmes, qu'on connaît avec son célèbre chapeau, etc. Donc, franchement, c'est... c'est vif, c'est agréable, il y a des histoires, ça rebondit, il y a des histoires d'amour au milieu, des bleuettes, des trucs qui vont pas, il y a des failles, et on comprend, c'est pas des failles qu'il a, c'est des grands canyons, hein, Sherlock avec sa famille, ils sont pas tous bien équilibrés quand même, il y a que Mycroft qui est un peu correct, mais vraiment, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Bon, le seul truc que je vous disais, moi, c'est la plateforme, Netflix, Prime ne me va pas, cette C'est vraiment un gros, gros, gros boulet sur l'interface et sur la fiabilité. Des fois, elle décroche parce que vous n'avez pas fait la mise à jour. Truc hallucinant, où elle met trois plombes pour monter, ou alors elle s'arrête en plein milieu. L'interface est mauvaise parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est accès gratuit, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est alloué, qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez regardé. Il faut qu'ils revoient leur plateforme, leur interface Prime Video. Hein. C'est pas possible d'avoir un outil avec un tellement de choix où vous êtes obligé de fouiller pendant 25 minutes pour trouver quelque chose. Quoi. Voilà. Sauf avoir les trucs exclusifs ou la série du mois ou de la cette semaine. Mais c'est pas forcément ce que vous voulez voir. Mais bon, écoutez, si vous aimez Sherlock, si vous aimez Guy Ritchie, si vous aimez ce genre un peu allez voir Young Sherlock sur Prime. Ça va peut-être vous plaire. En tous les cas, moi, ça m'a bien plu. Voilà, petite pause musicale avec la très jolie, toujours, Blondie, Heart of Glass. Et on se retrouve après pour The Flop, presque The Flop, et pour vous dire ce que nous sommes en train de regarder. Nous sommes à pratiquement trois quarts et franchement, waouh, non, c'est bien foutu. Blondie, Heart of Glass.
Bye.
Blondie, Art of Class. Alors, le presque flop du mois, on va peut-être pas lui taper trop dessus, mais on va y aller, c'est King and Conqueror sur Canal+. Alors, on est en 1066, quand le roi Édouard meurt en Angleterre sans laisser d'héritier et va se lancer une lutte entre Harold de Wessex et Guillaume de Normandie, oui, le Guillaume le conquérant bientôt, et qui va s'achever sur la bataille de Hastings. Alors, inutile de vous dire que moi, j'ai vu 1166 Hastings, Angleterre. Grande fan de l'histoire de l'Angleterre, je me suis dit oh là là, oh là là, oh là là. Alors, en plus, James Norton... dans le truc, je me suis dit allez vas-y, cours, cours Forest, tu peux y aller. Alors évidemment, hein, j'ai sauté sur cette série comme la peste sur le monde, et aussi parce que je voulais vraiment beaucoup admirer James Norton. Il faut quand même, bah, de temps en temps, faut pas, bah, écouter, ça met un plus, hein, tout de suite. Voilà. Alors si je vais le dire tout de suite. Sentez-le, aïe. Si vous n'êtes pas, comment dire, si la vérité, la véracité historique dans une série vous importe peu, et que vous, vraiment, franchement, honnêtement, vous en foutez un peu, vous pouvez y aller. Franchement. Bon, c'est pas la meilleure série de tous les temps, c'est pas Game of Thrones, hein, alors calmez-vous, c'est pas la meilleure série de tous les temps historique, machin, mais il y a suffisamment d'enjeux, il y a suffisamment d'amourettes, il y a suffisamment de batailles, de duels, de manigances, etc., pour vous tenir alléchés. Voilà. Seul truc, moi, je me suis complètement étouffée. Alors, les failles historiques, les anachronismes, les raccourcis, alors, dans tous les sens du terme, on y va dans les deux côtés. Hein. Voilà. La bataille finale, alors, je ne sais pas qui pond les séries, mais tenez-vous, enfin, appelez un vrai historien, quoi. C'est comme dans Game of Thrones, je vous rappelle, la bataille de la dernière saison. Mais qui... Pourquoi ils n'ont pas embauché des tacticiens militaires et historiens pour leur expliquer qu'on ne mène pas une bataille comme ça? On en est tous encore en train de s'étouffer avec cette bataille-là. Alors ça, c'est pareil, même combat. Voilà. Mais si vous aimez les séries historiques sans relief, sans connaître ce qui s'est passé et sans connaître véritablement cette époque majeure, hein, pour l'Angleterre, puisque par la France, par ricochet, mais évidemment pour le développement, vous allez trouver ça pas mal. En plus, il y a, je vous dis, il y a des très bons acteurs. Il y a toujours la toujours très ravissante Clémence Poésy, qui est toujours agréable à regarder. Voilà, moi, j'ai pouffé, j'ai soufflé, j'ai râlé. Je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, etc. Et alors, quand on est arrivé à la bataille d'Hastings, moi, je me suis dit, ah non, mais là, je vais bouffer mon chapeau. Alors, j'ai fini, je me suis dit, je vais la finir quand même, parce que je voulais savoir si, évidemment, à un moment donné, ils allaient se dire, ouais, non, mais là, on fait des grosses conneries, on va peut-être établir les trucs. Non, ah là là, ah, pas du tout. Voilà. Donc, c'est une bonne série si vous vous en foutez de l'histoire et si surtout, alors mes amis britanniques, n'y allez pas parce que vous allez vous étouffer, on est bien d'accord sur la question, sauf si évidemment vous faites partie de ceux qui, on s'en fout que ça soit pas vrai, c'est une série, nous on regarde, c'est pas notre problème, on n'est pas là pour apprendre des trucs, bah c'est dommage parce que franchement, il y avait du matos, hein, à faire, hein, donc voilà. Mais je vous dis. Puis en plus, c'est très propre, il y a beaucoup de clichés aussi, certaines fois. Bon, bref, mais voilà, c'est pas désagréable à regarder, puisque j'ai regardé tous les épisodes, hein, donc la preuve, mais j'ai beaucoup soufflé, j'ai beaucoup levé les yeux au ciel, j'ai beaucoup pesté, j'ai beaucoup, limite, j'étais avec mon livre, mes pavasses, avec l'histoire de l'Angleterre, devant l'écran, en disant, regarde, ah oui, non, mais j'en suis là. Voilà, donc presque flop de presque flop, carrément, presque un flop. Et alors, la série qui est en cours actuellement, c'est Scarpetta. Alors, sur Prime Video, je sais, on a remis une couche sur la plateforme. Alors, attention, c'est très librement adapté de la série. C'est adapté, hein. Attention, c'est la même ambiance, c'est les mêmes personnages, etc. Simplement... Voilà, il faut dire que les descriptions des personnages que vous avez dans les livres, si vous connaissez les livres, alors c'est pareil, si vous êtes comme moi, moi j'ai lu les 15 premiers livres de Patricia Cornwell, donc des aventures de Kay Scarpetta, au début des années 90, je connaissais bien les personnages, je m'étais attachée avec tous les personnages, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages qui ne ressemblent pas du tout à la description qui est faite dans les livres. le meilleur exemple est quand même Pete Marino. Qui là se retrouve à être un beau gosse, même plus âgé, mais un beau mec, alors que pas trop quand même. Bon, bref. Donc, vraiment, si vous risquez peut-être d'être un peu déstabilisé. Sinon, la série est excellente. Il y a deux temporalités, on est en 1998 et en 2026. C'est une affaire qui semble être commune aux deux. De deux années et on va voir l'évolution des personnages, des deux personnages, parce que chacun des personnages, donc Kay Scarpetta, donc Pete Marino, Benton, etc., Lucie, la nièce de Kay, tout le monde a deux acteurs qui les interprètent. Alors dans les 2026, c'est quand même Nicole Kidman. Mais il faut signaler surtout celle qui joue Kay Scarpetta en 1998, qui s'appelle Rosie McGowan, qui est absolument, mais formidable. Mais vraiment, elle est à un niveau au-dessus du lot. Donc, il y a un tueur en série qui revient et ben voilà, la Kay de maintenant, elle doute parce qu'elle pense qu'elle a manqué un détail à l'époque et que peut-être elle a fait arrêter quelqu'un qui n'était pas le bon. Et donc tout ça, évidemment, il y a des secrets qu'elle cache avec Pete Marino. Lui-même a des choses qui vont pas. Donc on assiste en 1998 à l'arrivée de tous ces personnages qui se rencontrent pour la première fois, qui commencent à avoir des interactions ensemble. Et on voit l'évolution de la relation amoureuse entre Kay et Benton et de tout ce qui se passe. Et on les retrouve donc évidemment en 2026 avec leur vie de maintenant, leurs failles, leurs luttes, leurs différends, etc. C'est très bien foutu. Ils ont en plus casté le père et le fils, donc Bobby et Jack Carnavale, pour le rôle de Pete Marino. Vraiment, les époques sont bien reconstituées, les dialogues sont vifs, les acteurs sont très bons, la musique est bien posée, c'est très bien interprété, l'enquête est vraiment formidable et addictive, et on a vraiment, il y a des scènes de attention, il y a des scènes d'autopsie, c'est bien centré sur l'autopsie quand même. Hein. Bon, moi, ça me soulève pas le cœur, mais ça risque de ne bouffer pas en même temps si vous êtes sensible. Mais franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé jusqu'à présent. Il nous reste trois épisodes, et vraiment, j'ai bien aimé. Après, on m'a dit qu'il y avait un twist à la fin du dernier épisode qui risquait de heurter les fans de Patricia Cornwell. Voilà. Écoutez, on verra bien quand on y arrivera. Voilà. À part que dans le premier épisode, Patricia Cornwell fait une apparition en tant que juge qui fait prêter serment Nicole Kidman, enfin Kay Scarpetta, sur la Bible aux États-Unis. Donc, c'est un petit clin d'œil. Alors, je me suis dit, si Patricia Cornwell a accepté de faire un caméo dedans et qu'elle a double, ça veut dire qu'elle a plus ou moins double la série. Et après tout, on est libre. Quand on dit librement adapté, on est libre sur un film à changer des choses parce que ça sert la série, effectivement, et peut-être que ça leur permettait de développer des choses. Par exemple, il y a la sœur de Kay Scarpetta qui est jouée excellemment bien par Jamie Lee Curtis. Elle est absolument folle, mais elle est géniale, qui est très peu présente hein, dans les livres. Et pareil, il y a un caractère physionomique de Lucie qui est blonde et qui là se retrouve être une latino-afro-américaine, ça sert la série, ça sert peut-être d'être plus moderne, j'en sais rien, d'adapter à maintenant. Moi, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai qu'en tant que fan de Patricia Cornwell et des romans, j'ai un peu soulevé les paupières quand j'ai vu la physionomie des acteurs qu'ils avaient pris pour certains personnages. Voilà, mais sinon, Scarpetta, c'est très bien. Et puis, ça vous donnera peut-être envie de lire les livres qui sont formidables, et commencer par Postmortem, qui est le premier et qui vous cloue sur place d'entrée de jeu. Allez, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous, déjà lundi prochain. Et, c'est lundi de Pâques. On fera peut-être venir des petits lapins avec des petits œufs. Non, pas de lapins. On verra bien. On parlera de livres qu'on a lus, que j'ai lus au mois de mars, et de ce que je vais lire en avril. Écoutez, on verra s'il y a un lapin qui passe. On n'est pas sûr. En tous les cas, il y aura une cloche. C'est moi. Allez, d'ici là, nous, on s'occupe de vos petites oreilles sur Liberté FM et vous vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on finit par The Look, Roxette. Ah oui, vieille chanson, mais bonne chanson. Tiens, ça pourrait être pas mal pour une intro de série, ça, Roxette, The Look. You got the look. Ah oui, oh oui, ça. Ah non, chante pas. C'est-à-dire qu'il fait pas très chaud. Ciao.
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do. You. And I go la 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 la. She's got the look. She's got the look. And she goes,